Plan Large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Plan Large, l'encyclopédie vivante du cinéma, aujourd'hui elle comme La Rochelle et son festival de cinéma avec Alexandra Stewart, Prune Engler, Sophie Mirouz et Mathieu Macheret. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan Large pour cette dernière émission de la saison. Plan Large est cette année encore à la plus cinéphile et chaleureuse manifestation de l'année, le Festival International du Film de La Rochelle. Le Festival La Rochelle Cinéma, comme il s'appelle désormais, le FEMA. Une 47e édition toujours aussi riche et donc toujours aussi frustrante. Imaginez que pendant même qu'est diffusée cette émission, les festivaliers doivent choisir entre un Godard de 1985, éclairé par la grande directrice de la photographie Caroline Champetier, une découverte islandaise, le premier long-métrage d'Elia Souleyman, un film tourné à Paris, en escale entre l'Allemagne et Hollywood par Fritz Lang avec Charles Boyer, l'avant-première du nouveau film de l'Argentin Benjamin Neistat, un classique de l'animation signé Jean-François Laguioni, ou encore, n'en jetez plus, un chef-d'œuvre de l'apogée du muet, Le Vent de Victor Sjöström. Et ça, ce n'est que pour aujourd'hui à 14h, cette année à La Rochelle, il y a des frissons d'angoisse et de l'insularité volcanique, un palestinien errant et un French lover, une charrette fantôme et des amants criminels, des mimiques grimaçantes et de brèves rencontres en terre soviétique et tant d'autres choses encore. Pour nous guider dans la profusion du festival La Rochelle Cinéma, le FEMA, donc trois femmes, comme chez Robert Altman, à qui nous consacrions un plan large il y a trois semaines, deux bonnes fées et une marraine. Les bonnes fées, ce sont Prune Engler à la fête cette année, puisque c'est sa dernière édition comme co-directrice artistique dans ce festival dont elle a été la déléguée générale depuis 2002, mais où elle imprime en fait sa marque depuis 42 ans, et Sophie Mirouz, qui lui a succédé l'an dernier comme déléguée générale et également co-directrice artistique. La marraine, c'est une nouveauté de cette année, c'est l'actrice Alexandra Stewart qui reviendra avec nous sur son intense cinéphilie et sur trois de ses 140 films qui seront projetés à La Rochelle. En fin d'émission, Mathieu Macheret évoquera le maître des couleurs, inventeur du giallo, Mario Bava, cinéaste culte, objet de réédition en salle, d'une rétrospective à la Cinémathèque française et d'un livre. Mais pour l'heure, flashback.
Monsieur. Ah bon. Monsieur. Hein? Comment? Vous permettez.
Hulot.
C'est mon frère.
H-U-L-O-T. Hulot.
Hulot! Hulot! Ah! Eh ben, tu me reconnais pas? Schneider! L'armée! Ah! Tiens, j'en ai pour une minute, là. Attends-moi, là, tu restes là. Ah, tu sais.
C'est trafic, dis donc. Qu'est-ce qu'il y a? Eh ben voilà, il n'y a pas les...
Ah, c'est pas possible.
Franchement,
alors. Tu peux la faire avant de partir. Ouais, ben alors, c'est moi qui m'a forcé la manivelle, hein.
Eh ben quoi, là-bas? Bonsoir. J'allais pas me le bousiller, ce piano.
Dis-moi. Du là.
Il n'ose plus, le piano.
La manivelle, où est son frère? Il va vous l'arranger, lui, oui. Alors, pour le coup, j'en
Volka, Volka.
Il n'y a pas d'âge pour le rythme. Il n'y a pas d'âge pour le rythme. Oh no, there is no age for rhythm.
Il n'y a pas d'âge pour le rythme. Bonjour Prune Engler.
Bonjour Antoine Guillot.
Cette incursion en univers tatillesque composée par notre réalisatrice Manina, c'était la bande-son de l'édition 2002 du Festival de La Rochelle, vous vous en souvenez sans doute encore, c'est l'année où, avec Sylvie Prat comme directrice artistique, vous êtes retrouvée à la tête de la manifestation. C'était une succession qui n'avait pas été sans mal, hein, je m'en souviens encore, pour prendre la suite de son fondateur, Jean-Loup Passec, grand homme de lettres et de cinéma. C'est lui qui vous avait embauché dès 1977, Pruningler. La légende raconte que vous avez été embauché parce que non seulement vous saviez que Satyajit Ray était le plus grand cinéaste indien, mais encore vous saviez parfaitement épeler son nom. À quoi ressemblait le festival quand vous y êtes arrivé, Pruningler? C'était 4 ans après sa création, hein, 1973, hein, je crois, la création du festival de La Rochelle. Qu'est-ce qui avait été mis en place à l'époque qui perdure encore aujourd'hui?
Alors, à l'époque, c'était un festival multidisciplinaire et le cinéma n'occupait qu'une toute petite partie de ce festival qui s'appelait Les Rillacs. Les rencontres internationales d'art contemporain. Donc il y avait essentiellement de la musique contemporaine, du spectacle vivant et le cinéma, c'était quelques films, mais quand même des films déjà à l'époque qui n'avaient jamais été montrés en France, qui venaient de cinématographies peu connues essentiellement des pays de l'Est, de Pologne, de Russie,
ça, de c'était le grand tropisme de Jean-Loup Passec.
Tout hein. à fait, parce qu'il pouvait y aller en train dans ces pays-là.
Voilà, quand il prendra ensuite la tête des cinémas du centre Georges Pompidou, il fera découvrir toute cette cinématographie de l'autre Exactement. Côté du rideau de fer qu'on ne connaissait pas du tout.
Oui, tout à fait. C'était vraiment sa spécialité et son originalité. Et à l'époque, ces films-là n'étaient vus nulle part.
Alors, c'est un héritage tout de même, ce festival, ça ne surgit pas de nulle part. On l'appelait un peu le festival des ciné-clubs à l'époque. Hein. Il faut rappeler que André Bazin, qui a grandi ici, à La Rochelle, a co-animé un festival à La Rochelle qui s'appelait la Lanterne Magique. Et que cette manifestation de La Rochelle est dans cette droite ligne de l'éducation populaire, notamment l'éducation à l'image, et dans l'idée de faire un festival qui soit à la fois cinéphile et populaire. Alors comment est-ce qu'on arrive à allier les deux, que ce soit à la fois populaire et cinéphile?
En fait, c'est pas si difficile que ça. Il suffit de montrer des bons films et puis de savoir en parler, peut-être communiquer un certain enthousiasme, faire que les spectateurs se sentent vraiment chez eux dans les salles, qu'ils soient bien accueillis, que les conditions de projection soient respectées, que les cinéastes également se sentent à l'aise pour rencontrer les gens, pour être disponibles, qu'ils ne soient pas en concurrence les uns avec les autres puisqu'il n'y a pas de compétition. Donc si vous voulez, toutes ces conditions qui concernent essentiellement les relations humaines, tout simplement, si elles sont réunies, en principe, petit à petit, d'année en année, la réputation du festival fait que de plus en plus de gens ont envie de le fréquenter.
Le fait qu'il n'y ait pas de compétition, c'était un choix très conscient à l'époque, puisque ça se mettait complètement en porte-à-faux par rapport à, alors, évidemment, le Festival de Cannes. On pourrait dire que le Festival de La Rochelle est l'antidote parfait pour le Festival de Cannes. On y voit parfois les mêmes films qu'on a vu à Cannes, mais dans de bien meilleures conditions. C'était un choix politique à l'époque qui avait été fait.
Oui, tout à fait. Et il y avait moins de festivals de cinéma à l'époque, bien sûr, mais tous donnaient des récompenses à ce que Jean-Loup Passec appelait des médailles en chocolat. Et c'était une façon de résister à tout cela, de ne pas mettre les films en compétition, mais au contraire de faire profiter aux festivaliers du plaisir de la comparaison. Et on n'a jamais regretté ce choix, on l'a perpétué. C'est un petit peu compliqué pour trouver des partenaires, parce que les partenaires adorent distribuer des prix. Mais pour nous, c'est beaucoup plus simple, parce qu'on n'a pas à chercher de jury, de gens célèbres, qu'on va devoir inviter, mais qui ne sont pas forcément directement impliqués dans le festival en question. Donc, pour toutes ces raisons, on a conservé, et je pense que Sophie Mirouz et Arnaud Dumatin continueront à ne pas décerner de prix à La Rochelle.
Eh bien, on va surveiller ça hein, dans les années à venir. Quand vous êtes arrivé à la tête du festival en 2002, qu'est-ce que vous avez voulu changer? Il y avait déjà peut-être une image qu'avait le festival de La Rochelle, qui était tout de même un festival de Parisiens qui quittait les salles obscures et les tréfonds de la cinémathèque à Chaillot, qui venait prendre le soleil et l'air de la mer. L'idée d'un festival de Parisiens à La Rochelle, ça c'est quelque chose que vous avez voulu changer tout de même.
Oui, c'est vrai qu'on était perçus un peu comme un festival parachuté. Ce qui est le cas de beaucoup d'entre eux d'ailleurs, souvent les équipes sont parisiennes. Donc effectivement, dès cette époque, on a développé le travail du festival à l'année, c'est-à-dire qu'en dehors des 10 jours de projection des films, il se passe énormément de choses, et en particulier des productions de courts-métrages dans des lieux très différents, avec des intervenants très différents, et en particulier dès le début pratiquement à la prison de Saint-Martin dans l'île de Ré, un travail avec les détenus qui chaque année écrivent des films d'animation. Et donc tous ces films sont réunis en revanche au moment du festival et on les projette au public qui peut ainsi se rendre compte de l'impact, de la présence du festival à l'année à La Rochelle et tout autour de La Rochelle.
Ce qui a beaucoup changé aussi, c'est que ce festival qui a toujours été un alliage presque alchimique entre des nouveaux films, ce qu'il y a de plus intéressant à voir à un moment donné dans le cinéma d'auteur mondial et l'histoire du cinéma et le patrimoine. Donc chaque année, il y a de plus en plus à montrer. Sauf qu'avant, ces films-là, on les voyait en cinémathèque, on les voyait dans les festivals, mais on ne les voyait peu le reste de l'année. Et depuis le début du siècle, depuis 2002, le nombre de distributeurs de films de patrimoine, le nombre de rééditions en salle, dans de très belles versions restaurées, a décuplé. Enfin, on en parle quasiment toutes les semaines dans cette émission. Et par ailleurs, vous avez dû vous positionner par rapport à d'autres manifestations qui explorent aussi ce champ-là. Le Festival Lumière, pour ne pas le nommer, qui a une force de frappe assez impressionnante, puisque son directeur, Thierry Frémaux, est par ailleurs directeur également du Festival de Cannes. Qu'est-ce que ça a changé, ces deux nouvelles données pour le Festival de La Rochelle ?
Eh bien, pas grand-chose, puisque comme vous le soulignez, on a montré du cinéma muet depuis pratiquement la création du festival. C'est aussi une des caractéristiques. Et donc, on a continué à le faire. Alors, effectivement, quand le Festival Lumière s'est installé, on a vu chez certains distributeurs de films restaurés, par exemple, qu'ils avaient des choix à faire. Malheureusement, nous, on aimerait bien que les mêmes films passent partout et rencontrent tous les publics. Donc, c'est vrai que ça a un peu changé. Mais surtout, ce qui a changé, c'est que maintenant, on présente les films anciens, les films réédités, comme des avant-premières. Ce sont des avant-premières. Alors qu'avant, on parlait justement des films de Cannes, des films qui allaient sortir dans les salles à la rentrée, au mois de septembre, etc. Donc c'est assez amusant de se retrouver dans la même configuration, mais avec des films bien plus anciens.
Est-ce que vous avez senti que le rapport du spectateur à ces films, de fait, se modifiait ? Peut-être Sophie Mérouse, vous qui voyez maintenant ces nouveaux spectateurs, parce que ce qui est très beau à La Rochelle, c'est qu'on voit aussi toute tranche d'âge confondue, des enfants aux personnes âgées, en passant par tous les âges intermédiaires. Est-ce que vous sentez une nouvelle approche par rapport à cette histoire du cinéma ?
Oui, moi je sens une nouvelle approche parce que je me sens concernée par ces nouvelles générations qui fréquentent le festival depuis quelques années. C'est vrai qu'il y a eu tout un travail d'ouverture à d'autres publics et à d'autres formes de cinéphilie. Et moi je pense que je ne viens pas du tout de la même cinéphilie que Prune, Ingler et Sylvie Prat, qui ont dirigé le festival pendant longtemps. Et c'est vrai que j'appartiens pas à cette cinéphilie plus traditionnelle, plus classique. Et j'ai souhaité justement, avec Arnaud du Matin, ouvrir la programmation à des cinéphilies. Par exemple, cette année, le cinéma de genre ou le cinéma plus populaire avec la comédie. Et pour nous, c'est attirer d'autres cinéphiles. Et voilà, le cinéma de genre est à la mode maintenant. Mais par exemple, Dario Argento, c'est un cinéaste culte qui, pour nous, a fait sa place au festival.
Lo sai quante persone fanno l'amore al mondo ogni secondo?
No.
780 in media. Davvero.
Aiutami. Aiutami. Lo so che c'è qualcuno. Rispondete!
Sara. Sara. Sara.
Probabilmente conosci questa musica.
Sì.
È di Verdi, va pensiero.
Silenzio!
Silenzio! no!
Si chiude.
Pas d'erreur sur France Culture, c'est plan large et pas mauvais genre comme pourrait nous le laisser penser cette incursion dans l'univers angoissant de Dario Argento. Grâce encore à Somanina, Dario Argento, vous l'avez dit, Sophie Mérouse, honoré cette année par le Festival Cinéma La Rochelle en sa présence. Ça accompagne la rétrospective qui lui est consacrée. On découvrira aussi le film de l'ami Toré sur un de ses chouchous, Dario Argento. Et de fait, vous venez de le dire, c'est devenu comme une évidence cette année de programmer le maître de cette épouvante baroque à l'italienne. Il y a quelques années, ça n'aurait pas du tout été évident. Je prends par exemple un dictionnaire fameux, le dictionnaire Larousse du cinéma, dirigé par Jean-Loup Passec. Je prends sa dernière édition avant la disparition de Jean-Loup Passec. Et alors, qu'est-ce qu'on lit sur Dario Argento? Qu'il est sadique, qu'il est parodique, qu'il est strident. On imagine que voilà, Prunengler, il y a quelques années, programmer Dario Argento, ça n'aurait pas été évident, surtout à La Rochelle.
Mais je vais vous avouer, je n'y aurais même pas pensé. Et j'étais très heureuse quand Sophie a fait cette proposition, parce que je me suis dit, elle a raison, il faut qu'on revoie ces films aujourd'hui. Le monde a changé entre-temps. Et ce qui est très très étonnant, c'est que la peur au cinéma a changé. Donc on a vu des choses qui nous semble beaucoup plus atroce, beaucoup plus effrayante que les films de Dario Argento et qui nous apparaissent aujourd'hui comme des objets poétiques. Et c'est très intéressant de les revoir.
Et comment ça se passe, les débats à l'intérieur de l'équipe de programmation? Chacun arrive avec ses idées, c'est très discuté, vous passez au vote. Sophie Mérouse.
Non, on n'a pas besoin de voter. On est donc trois à faire la programmation du festival, Sylvie, Prune et moi. On a des goûts assez complémentaires, il faut le dire. On n'est pas toujours d'accord en effet. Sylvie n'était pas très fan, on peut le dire, de Dario Argento. Mais je pense que Prune et moi, voilà, on a considéré que c'était un auteur avant tout et qu'il avait sa place dans un festival de cinéma. Comme Jean-François Laguioni, on ne le considère pas seulement comme un cinéaste d'animation, mais comme un cinéaste tout court. Donc pour nous, c'est le cinéma qui compte. Et Dario Argento, en effet, revoir ses films aujourd'hui, 30 ans ou 40 ans après leur réalisation, c'est voir un travail aussi très esthétique sur la couleur, sur la musique, qui a son importance aujourd'hui.
Et les voir sur grand écran est aussi très important, puisqu'il y a plusieurs générations maintenant qui ne connaissent les films de Dario Argento. Alors on se réjouit qu'ils ressortent en salle, hein, grâce au film du Camélia, mais qui, pour la plupart, n'ont vu ces films que, dans le meilleur des cas, sur des grands écrans, parfois sur leur téléphone portable. C'est aussi cette volonté que vous avez?
Oui, tout à fait. De toute façon, c'est montrer les films dans des belles copies restaurées. Donc là, en effet, c'était une proposition avant tout des films du Camélia, qui avait ressorti l'été dernier 6 films, et qui ressort cet été 2 nouveaux titres, plus le nouveau documentaire de Jean-Baptiste Toré. Et là aussi, vous parliez de l'ami Toré, donc c'est un critique de cinéma qui s'intéresse un cinéaste, en effet, de la peur, mais un cinéaste avant tout.
Oui, qui a fait beaucoup pour que ce soit maintenant évident de programmer un Argento. Et on se dit que l'année prochaine, vous ferez peut-être John Carpenter et que ça sera tout aussi passionnant. Alors, de même, évolution de la cinéphilie, évolution de la critique. Louis de Funès va avoir droit à une rétrospective et à une exposition à la Cinémathèque française l'année prochaine. Si on avait dit ça à l'époque d'Henri Langlois, je pense que les cinéphiles de l'époque se serait étouffé. Vous allez les programmer en les mettant en regard avec les pitreries cartoonesques d'un Jim Carrey. Là encore, quelle est l'idée derrière?
Alors, tout le monde les a vus à la télévision, vus ou revus en effet, mais rares sont ceux qui les ont vus sur grand écran, puisque c'est des films qui datent des années 60 ou 70 et qui sont toujours aujourd'hui réclamés par de nouvelles générations. Par exemple, à la médiathèque de la ville de La Rochelle, la responsable de la vidéo nous disait il y a quelque temps que c'était l'acteur, enfin la personnalité réclamée par les enfants de 6 ou 7 ans. Donc l'idée, c'était de s'intéresser à leur côté burlesque, à tous les deux, et de mettre en regard deux acteurs de deux générations différentes, deux époques différentes, deux continents différents, et de les associer. Et l'idée derrière, c'est surtout évidemment de faire venir un public plus familial et de montrer qu'à La Rochelle, on peut aussi rire devant des comédies populaires.
Ah, il n'est plus interdit de rire quand on est cinéphile, ça fait du bien. C'est aussi, il me semble, une évolution du regard sur la notion d'auteur. C'est-à-dire que vous programmez Louis de Funès et Jim Carrey comme des auteurs, c'est-à-dire qu'on est dans la politique des acteurs à la Luc Moulay. Et de même, vous inaugurez une nouveauté. Il y a longtemps, on se demandait est-ce que les les discussions, les masterclass ne doivent être que le fait de cinéastes, c'est-à-dire la personne autorisée par la, depuis la politique des auteurs. Vous, cette année, ce sera une chef opératrice, une directrice de la photo, et pas n'importe qui, Caroline Champetier, qui va donner sa leçon de lumière. Vous voulez montrer que le cinéma, ce ne sont pas que des cinéastes géniaux dont le film sortirait directement de l'esprit pour s'imprimer sur l'écran. C'est avant tout collaboratif.
Oui, tout à fait. On mène déjà ce travail depuis une dizaine d'années sur la musique et le cinéma. Ça, c'est une proposition de mon collègue Arnaud. Donc depuis 10 ans à peu près, on invite chaque année un compositeur de musique de film. Le premier, c'était Philippe Sard, qui était venu nous parler de cinéma. Et donc cette année, on a souhaité ouvrir en effet aux autres collaborations cinématographiques, donc à la lumière, aux chefs opératrices, une chef opératrice.
Ouais, c'est compliqué. directrice de la photographie, on dira.
Voilà, une des premières en France, et pas la moindre, une des plus brillantes avec Agnès Godard, qui s'exprime extrêmement bien sur son travail et qui saura, je pense, faire passer au public sur qu'est-ce que c'est un plateau de cinéma, qu'est-ce que c'est un plan de feu. Donc, nous parler de tout ça, et elle en parle brillamment.
Oui, elle est tout à fait passionnante, Corinne Champetier. Enfin, les auditeurs de France Culture le savent bien, puisqu'elle est volontiers invitée sur cette chaîne. Alors que les cinéphiles les plus traditionnalistes se rassurent, on reste quand même beaucoup dans l'ADN de ce festival. Hein. On va voir Arthur Penn, on va découvrir les films de Charles Boyer, le grand French Lover, devant lequel Prune Engler se pâme encore dès que j'évoque son nom. J'aimerais bien, Sophie Mérousse, que vous nous parliez d'une cinéaste, je n'oublie pas que vous programmez également le festival Un Week-end à l'Est, d'une cinéaste très importante qui s'appelle Kira Muratova, qui est disparue l'an dernier dans une grande indifférence, il me semble. Et alors là, on est vraiment dans les racines du festival. Jean-Loup Passek, d'ailleurs, probablement aurait pu montrer ses films, puisque c'est une cinéaste ex-soviétique, censurée à l'époque, devenue ukrainienne. Parlez-nous un peu de cette cinéaste.
Oui, donc vous disiez justement en effet qu'elle a été censurée pendant longtemps sous le régime soviétique, et je pense que c'est parce que c'est une femme, tout simplement, qu'on a très peu parlé d'elle. Ensuite, donc ces films ont été restaurés, donc on pourra les revoir en effet dans de belles conditions à La Rochelle, et c'est une cinéaste qui a été très très libre, d'où la censure, et qui s'est imposée avec un style très particulier, très à elle, avec un montage aussi très spécial de flashback, et qui a pu s'inspirer de la nouvelle vague française, c'est ce qu'on pourrait dire sur son montage. Et c'est vrai que ces films sont devenus des films très rares, qui sont réclamés par les cinéphiles. Ils ont entendu parler de cette cinéaste d'origine ukrainienne, mais ils ne connaissent pas ces films. Donc on est ravis de montrer 6 films restaurés, et la Cinémathèque française fera une intégrale à partir de la fin septembre.
Et plusieurs des programmations, je le rappellerai tout à l'heure, du Festival de La Rochelle seront reprises dans diverses cinémathèques, la Cinémathèque française, la Cinémathèque de Toulouse. J'ai dit un peu rapidement tout à l'heure que le festival avait changé de nom, donc c'est à présent le FEMA. Pourquoi ce changement de nom ?
Voilà, alors on est passé en effet des RIAC, comme le disait Prune, au FEMA.
En passant par le FIFLR.
FIFLR, exactement. Le Festival La Rochelle Cinéma, c'était déjà pour réduire en fait le nom du festival, qui était en effet un petit peu long à prononcer et à logotyper, puisqu'avec Arnaud cette année, on a souhaité revoir aussi la charte graphique du festival, donc son identité visuelle. Et c'était aussi s'affirmer comme le Festival de La Rochelle, puisque beaucoup nous appelle le Festival de La Rochelle, l'ancienneté du festival qui a 47 ans cette année. Et c'était surtout affirmer le côté cinéma du festival, puisque derrière le mot film, maintenant, on trouve du téléfilm aussi, des films, des séries, des films pour le web. Donc c'était affirmer le côté cinéma, 7e art du festival.
Voilà, la salle de cinéma, les nombreuses salles de cinéma de La Rochelle, hein, je crois que c'est la ville la plus équipée en fauteuils de cinéma par habitant. Donc c'est un record français tout à fait excellent. Pour finir, vous pouvez nous dire pourquoi vous avez choisi de prendre une marraine cette année, et pourquoi Alexandra Stewart, nous la présenter en quelques mots?
Alors une marraine, c'était pour nous représenter dans divers festivals, pour faire rayonner le festival à l'étranger. Et c'était surtout pour nous accompagner pendant ces 10 jours. Et Alexandra Stewart s'est imposée très vite. C'est une actrice qui fréquente le festival depuis longtemps, avec une grande discrétion, avec beaucoup d'élégance, qui a pu présenter quelques films comme La Nuit américaine il y a quelques années en plein air, et qui, voilà, qui est toujours restée très discrète, n'a jamais demandé quoi que ce soit. Et c'était une façon justement de la remercier et surtout de la mettre à l'honneur, puisque vous le disiez, elle a tourné dans plus de 140 films. Donc elle n'est pas forcément identifiée. Et cette année, les spectateurs auront l'occasion de la rencontrer le samedi 6 juillet et de revoir 3 films de sa filmographie. Et il se trouve qu'elle faisait aussi un lien avec notre rétrospective consacrée à Arthur Penn, puisqu'elle a tourné dans son 2e film avec Warren Beatty dans Mickey One.
Donc tout ça tombait très bien, mais il faut dire que si on voit Alexandra Stewart depuis des années hein, dans les files d'attente de la du Festival de La Rochelle, c'est parce qu'elle est très cinéphile et elle n'a pas attendu la création du Festival de La Rochelle hein, pour se passionner de cinéma. C'est ce qu'elle nous a raconté dans l'entretien qu'elle nous a accordé. Alexandra Stewart, votre cinéphilie ne date pas d'hier, elle est très ancienne, elle vous est venue dès que vous êtes arrivée à Paris, vous allez rue d'Ulm à la cinémathèque d'Henri Langlois, vous allez voir ensuite des films avec votre ami François Truffaut, et puis ça vous est même venu avant, je crois que vous avez raconté dans vos mémoires, la découverte à Londres, oui, un beau jour, de 2 films français qui vous ont énormément marqué.
Oui, Un condamné à mort s'est échappé de Robert Bresson et... Lui et Brouillard, voilà, Alain René et commentaire de Chris Marker. J'ai rêvé d'aller dans un pays d'où sortaient ces films, même si les 2 histoires sont quand même glaçants. Et comme par hasard, par la suite, j'ai très vite rencontré l'interprète, le condamné à mort, François Le Terrier, qui par la suite est devenu metteur en scène lui-même. Enfin,
Alors quand vous allez à la cinémathèque rue d'Ulm, Alexandra Stewart, dans les premiers rangs, il y a tous les futurs cinéastes de la Nouvelle Vague, ceux qui écrivent au cahier du cinéma, les Romère, les Rivette, les Truffaut, Godard, Chabrol, etc. Vous allez jouer plus tard avec quatre d'entre eux, mais vous êtes justement plus proche de l'autre faction, on dira, des cahiers du cinéma. C'est Pierre Caste et Daniel Valcroze.
C'est ça, voilà. Grâce à Guylain Cloquet, vraiment formidable chef opérateur, avec qui je tournais un petit film publicitaire, et qui m'a dit « Oh là là, mais vous êtes tout à fait le genre... » J'ai un ami, Pierre Casse, qui est critique de cinéma, qui a fait des films documentaires, qui était l'assistant de Grémillon, entre autres, enfin, plein de choses, et qui cherche une jeune fille, pas besoin d'avoir fait l'école de Le Coq ou les cours pour juste quelqu'un qui soit joli, naturel, voilà. Et donc Guylain m'amène chez Pierre Caste et tout de suite, voilà, c'était mon éducateur et tout de suite, grâce à lui, j'ai découvert tout, Chauderlot, de la Close, Stendhal, Balzac, enfin tout. J'aurais peut-être, mais enfin là, c'était cours express, et voilà. Et ça a commencé comme ça, et j'ai vu énormément de films aussi avec Pierre Caste. On allait voir les Bresson, Pickpocket, enfin tout, et lui était très très ami avec Henri Langlois, avec, enfin voilà, tout ça, et puis il défendait, bon... Il était plus âgé, il avait fait plus de films avant que François Truffaut commence. Mais après, c'est Godard, Truffaut, etc., qui sont devenus les icônes de la Nouvelle Vague. Et des gens comme Pierre Caste, personne n'a restauré, je pense, ses films. Parce que moi, j'étais à Bologne, j'aurais bien aimé qu'on montre ou qu'on restaure Le Bel Âge ou quelques-uns de ces films, et des films documentaires aussi formidables. Mais bon. Donc j'ai eu cette chance-là, et comme Pierre était très... Personne ne savait comment, parce que je ne pense pas que ces films ont eu des succès commerciaux, mais il arrivait toujours à monter un film d'une façon ou d'une autre. Et puis les gens disaient, mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est parce qu'il savait, bon, c'était un intellectuel, un écrivain, il écrivait des romans aussi, des scénarios, enfin des science-fiction, enfin il était top en tout, connaissances musicales, enfin tout. Et donc on disait qu'il savait faire un synopsis, c'était ça, sa spécialité, et que les gens... Dans les maisons de production, peut-être, je ne sais pas comment c'est maintenant, avec Netflix et le reste, mais les gens n'ont pas le courage de lire tout un scénario de dada, machin, a dit ça à l'autre. Et donc, le synopsis très bien ficelé, machin, les a convaincus. Et bon, souvent, on tournait, grâce à lui, j'ai fait le tour du monde, un film à l'île de Pâques, une autre au Brésil, plusieurs au Portugal, dans le sud de la France, enfin voilà. Donc, c'était, moi, j'ai assez hédoniste, donc je crois que ça me convenait tout à fait comme relation actrice-metteur en scène, plutôt amie.
Well, I have a father.
That's what I mean.
No, I didn't
mean it. It's all right. Besides, it's different in English. So your old man's a rounder, huh? I like to hear things like that about Protestants. I'm the only American ever went to Berlitz to learn American. Do you make these mistakes in English? Their mistakes were better than my English.
Are you in the theatrical business?
Why?
Well, you're very quick. That's all.
I'm a comic.
Are you very good? I'm sure you...
On stage, I'm a Polack, no coward. Ever work a stage?
Oh, no. No, I'd be terrified.
I don't know.
Très hédoniste, ça vous l'avez beaucoup raconté et très bien dit dans votre autobiographie, Alexandra Stewart. Vous avez dit qu'un jour vous avez eu le choix entre devenir une star avec tous les sacrifices que ça impose et choisir la vie, et vous avez choisi la vie, et vous avez une filmographie assez étonnante, très buissonnière, très surprenante par moments. Alors comment ont été choisis ces trois films qui vont être montrés à La Rochelle? Est-ce que c'est vous qui les avez choisis?
Non, pas du tout, non, et non plus à Bologne, c'est l'eau à la bouche. Et là, Mickey Wan, oui, bien sûr, parce que c'est le rétrospective Arthur Penn qui le mérite bien, à part être un homme exquis, plus qu'exquis, et formidable pour les acteurs, entre autres. Et le film que j'aime beaucoup et que j'étais très fière que Joseph Mordair m'ait engagé pour interpréter sa mère dans La Duchesse de Varsovie. Et donc ça, je suis très contente, et que Joseph puisse venir à La Rochelle le présenter. Et puis Le Feu Follet, oui, bien sûr, Le Feu Follet. Et oui, qui est vraiment un formidable film. C'est pas un film qu'on trouvait so-so en 63 et que maintenant on trouve génial. Non, je crois que ce film a toujours, parce que même ayant un tout petit rôle, je l'ai quand même présenté vraiment beaucoup partout. Alors ça aussi, ça me permet d'aller au festival de Florence, de Chicago, de je ne sais pas où. Voilà, alors ce Chignon a eu beaucoup de succès, pour ne pas parler de Alain Leroy et son triste sort. Non, c'est un magnifique film de Louis Malle qui était parmi ses préférés, disait-il. Mais j'ai lu l'autre jour dans les critiques, j'étais très étonnée, de François Truffaut, un très très bonne critique des Amants. Je ne m'attendais pas, très juste, très joliment. François devait avoir 23 ans ou quelque chose. Et voilà, ça m'a étonnée dans ces... voilà, donc il n'y a pas que Le Feu Follet, bien sûr. Moi, un de mes films préférés de Louis Malle, avec Le Feu Follet, c'est Vania, son dernier film, et La Combe Lucien, j'étais assistante, troisième assistante. Et ça, c'est un de mes meilleurs souvenirs de cinéma, j'avoue.
Dites-moi ce que me disait autrefois ma mère quand j'arrivais en retard. Alain prendra le repas
où il en est.
Asseyez-vous, Alain. Vous connaissez tout le monde, je crois. Ah non, c'est vrai, vous ne connaissez pas Brancion. Marc, je vous présente un revenant, Alain Leroy. C'est un vieil ami de Cyril et un ancien flirt à moi.
C'est vrai que le Feu Follet reste considéré par beaucoup comme
peut-être le plus grand film de Louis Malle, et en tout cas celui où il pousse l'art de l'autoportrait le plus loin, puisque déjà il filme un milieu qu'il connaît très bien, le milieu de la grande bourgeoisie parisienne, et puis c'est aussi les angoisses qu'il avait à l'époque. Vous qui avez évidemment très bien connu Louis Malle, vous avez longtemps vécu avec lui, c'est le père de votre fille, est-ce que vous avez reconnu un autoportrait dans ce film?
Ah, oui, absolument. Oui, et puis il le disait, et c'est pour ça qu'il avait beaucoup de mal à trouver quelqu'un pour l'interpréter en dehors de lui-même. Il a essayé des acteurs, pas d'acteurs, et puis finalement, comme il connaissait Maurice, René, parce que là, son premier film, enfin, si on compte pas un premier film dit de fiction, L'ascenseur pour l'échafaud, ils avaient déjà travaillé ensemble. Donc, à la fin, ayant fait des essais avec beaucoup, beaucoup de gens, alors tous ses amis, ils les faisaient venir. Qu'est-ce que tu penses de ce Jean-François Berger? Qu'est-ce que tu penses de ça? C'était très, très difficile. Puis il y a toujours quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ça?
Une porte à claquer.
Oh, les portes claquent. Voilà, mais bon, il savait que ça allait être difficile, qu'il fallait qu'il le fasse maigrir, un peu que Maurice rentre dans la peau de Louis. Donc c'est vrai que l'ambiance, là, les 10 jours ou semaines que j'ai tourné, moi, le dîner qu'on voit à la fin avec Solange et son mari, c'était pas du tout gai, et surtout que moi j'arrivais dans la journée, le matin jusqu'à 4 heures. À 4 heures, j'allais chez le coiffeur Carita pour faire le chignon qu'on voit dans le film, qui est très important. Et je tournais un rôle adorable, j'avoue, dans le film de Jacques Baratier, que les gens ne voient plus non plus, malheureusement pour eux, qui s'appelle Dragée au poivre, qui est très gai, etc. Alors, c'était très étrange, dans la même journée, d'aller d'être dans ces deux ambiances opposées l'un de l'autre. Mais non, j'ai gardé des souvenirs, j'ai tourné des petits morceaux de films partout dans le monde, donc je ne me souviens pas de chaque... Mais ça, de ces deux tournages, et surtout du Feu follet, parce que c'était en vase clos, notre tournage à nous, et donc on se souvient de et puis Louis Malle était complètement là autour de Maurice, il ne le lâchait pas, quoi. Il le tenait comme ça pour que... Et je veux dire, il a vraiment réussi, parce que c'était un rôle difficile, voilà. Mais je pense que Louis était très content du résultat, même avec tous les doutes que peut avoir chaque artiste. Bon.
Les femmes qui sont ici ce soir, bien, je ne peux pas les désirer. Elles me font peur. 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 Solange, par exemple. Solange. Eh bien, si je restais 5 minutes avec elle, je ne ferais rien. Je disparaîtrais dans le mur.
Qu'est-ce qu'il y a, mon petit Alain? Vous êtes un peu gris et bien triste. Qu'est-ce qu'il y a encore?
Solange. Solange. Tu es la vie.
C'est en voyant ce film qu'Arthur Penn a eu l'idée de vous et de Guylain Cloquet, qui avait fait l'image, puisque vous en parliez tout à l'heure. Il vous a dit, voilà, je vous ai repéré, là, dans ce petit rôle, à la fin, beau rôle de Solange.
Oui, j'ai toujours trouvé ça un peu étrange d'aller d'une grande bourgeoise parisienne à une jeune fille de l'Iowa ou de la province américaine dans ses petites jupes. Elle disait toujours non, pas de chignon, mais non, t'as l'air trop chic, faut pas, etc. Donc je sais pas, et on m'a toujours dit ça, mais après, c'est pas Louis Malle qui m'a choisi pour le Feu follet, c'est ses assistants, Volker Schlondorf et surtout Philippe Collin, avec qui je venais de travailler sur les mauvais coups que j'aurais bien aimé, de François Le Terrier, dont j'aurais bien aimé qu'il restaure si c'est pas fait et qu'il le montre à Bologne ou à La Rochelle. Mais bon. Donc, la même chose que même d'avoir joué cette femme de la grande bourgeoisie parisienne dans le Feu follet, c'était pas un casting tellement convenu. Et puis là aussi, moi j'étais pas là quand il a vu le film, je le comprends parfaitement bien, pour Guylain Cloquet, ça Vous pouvez l'exporter partout. Mais même s'il ne parlait pas un mot d'anglais, ça c'était assez... Voilà, mais pourquoi pas, c'était moi. Qu'est-ce qu'il m'a dit d'autre? Il va être mis mieux. Enfin, il fallait trouver une... Enfin, genre Jean Seberg aussi. Enfin, voilà, des jeunes femmes comme ça, assez, assez simples et même un peu perdues. Et puis, voilà.
No! Where are you going? There's no place you can hide from them. You'll have to be an animal.
4.5 years I travel up and down the back end of the South. An animal.
I tried 2-3 times get in touch Ruby Lap, Detroit. Nothing.
Not today they hear pressuring me.
Do they know?
I don't know for sure they know who I am or not. Yet. But I haven't got that kind of guts to stick around and find out.
Couldn't you talk to someone?
I talk to you. This you don't talk. Nobody's gonna talk to you.
I don't understand. Anything. I mean, hiding from you don't know who. For a crime you're not even sure you've committed.
And the only thing I know, I'm guilty.
Of what?
You sure you don't want to drink?
Of what are you guilty?
Of not being innocent.
C'est un film qui se revoit bien maintenant. C'est vrai qu'il a beaucoup déconcerté à l'époque, mais c'est un grand film paranoïaque, un grand film qui dit l'état de l'Amérique à un moment. Il y a une menace, on ne sait pas laquelle, c'est la mafia, mais on n'en est pas sûr. On est à l'intérieur d'un personnage complètement fou. Est-ce que le film était très écrit, très storyboardé, ou est-ce qu'il s'est improvisé?
Non, c'est pas improvisé, non. C'est écrit, le scénariste, qui est un ami d'Arthur Penn, mais où on peut-être trouver des défauts dans l'écriture. Enfin bon, voilà, si on se penche là-dessus, si on est Pauline Kael, des critiques de cinéma new-yorkais, etc. Et puis peut-être, comme on dit toujours, c'était avance son temps. Et puis maintenant, c'est intégré dans l'œuvre d'Arthur Penn, qui fait de lui pas seulement un metteur en scène formidable de pièces de théâtre, de téléfilms de haut niveau avec des grands acteurs et tous les films qu'il a fait, son premier avec Paul Newman, Left-Handed Gun et Miracle en Alabama, qui a eu tant de succès et qui a lancé la fameuse l'actrice Anne Bancroft, admirable, et après les films qu'on va voir à La Rochelle, Little Big Man et tout ça. Et puis Bonnie and Clyde que devait faire Truffaut.
Avec vous?
Avec moi. Oui, ça c'était quand même un coup très très dur. Ça, enfin, j'ai plusieurs coups très durs, comme tous les acteurs. Et puis plusieurs surprises formidables qui ont dû faire les mêmes coups à d'autres actrices, peut-être. Enfin voilà, c'est ça l'histoire de ce métier d'acteur en tous les cas.
Tu vois cette bague?
Oui. C'est celle de ton mariage?
Non, mon chéri. La bague de mon mariage, je l'ai offerte à ta maman après la mort de Gaston. Cette bague, c'est celle que m'a donnée ma maman la dernière fois que nous nous sommes vus. Elle a dit, ma fille, prends cette bague, survie, raconte au monde entier ce qu'ont vécu les Juifs sur Terre, cet enfer. Et pour ça, ma fille, tu dois vivre.
Surprise formidable et occasion formidable. Surprise formidable quand nous, il y a 5 ans, on a découvert ce troisième film qui va être présenté à la Rochelle, La Duchesse de Varsovie, qui est un film qui, pour le coup, repose entièrement sur vous et sur votre comparse, Andy Gillet, qu'on avait découvert chez Romer, hein, dans Astrée et Céladon. Et ce film est bouleversant parce que, vous l'avez dit, vous jouez le rôle de la mère de Joseph Morder et vous racontez face caméra pendant 15 minutes, dans un monologue, l'histoire de votre personnage, c'est-à-dire d'une survivante, voilà, d'une survivante des camps d'extermination nazis. Quand vous avez accepté ce rôle, est-ce que vous avez pensé à justement cette jeune femme que vous étiez, qui avait découvert Nuée et Brouillard à Londres? Est-ce que vous avez pensé à l'enfant que vous étiez, dont le père a libéré avec les troupes anglaises les camps de Bergen-Belsen? Comment est-ce qu'on se plonge dans ce personnage? Parce que je dois vous avouer que quand j'ai vu ce film, je me suis dit, mais Alexandra Stewart a vécu ça. Il y a un effet.
Je ne sais pas. Je pense que c'est parce que je ne l'ai pas vécu. J'étais au Canada. Bon, c'est vrai que mon père est parti en 39 et il est revenu en 45 et avec l'armée britannique. Et voilà. Mais moi, oui, j'ai toujours eu une espèce d'obsession. J'avais lu le jour de notre mort de David Rousset. Enfin, et j'avais visité Dachau quand je tournais des films à Munich. J'avais fait tout le tour partout. J'étais à l'endroit où Hitler. Je peux pas vous dire, et j'ai même été jusqu'au Struthof. Bon, après, c'est parce que j'ai pratiquement puis lu énormément de témoignages, de récits, de choses en Israël aussi, enfin, les musées, les. Enfin, tout, bon, après, ça va pas faire revenir tous ces morts terribles. Tellement atroce, et oui, et puis moi je vais pas écrire encore un livre là-dessus, donc c'est, je ne sais pas, pour essayer de comprendre, mais on comprend pas, donc voilà. Donc je pense que j'ai toujours été, comme tout le monde, entièrement, obsédé, parce qu'on peut pas comprendre que l'être humain est capable de tout ça, et puis moi tous les jours, il n'y a pas une minute que... Je ne pense pas, mais ça n'aide pas les gens à revenir, ni les survivants qui, eux, sont meurtris pour toujours par ces expériences innommables.
Les trois films que nous venons d'évoquer, dont nous avons entendu des extraits, Le Feu Follet de Louis Malle, Mickey One d'Arthur Penn et La Duchesse de Varsovie de Joseph Mordeur, sont projetés au festival La Rochelle Cinéma en présence d'Alexandra Stewart, la marraine d'Oléron du festival. Pour en savoir plus sur son incroyable carrière, ses mémoires Mon bel âge sont publiées par l'Archipel. Et si vous venez à La Rochelle, vous avez de grandes chances de la croiser aussi dans une des files d'attente. Le festival La Rochelle Cinéma, c'est jusqu'au 7 juillet. Un plaisir à prolonger avec la rétrospective Dario Argento, partie 2. Quatre mouches de velours gris et ténèbres en copie restaurée seront en salle à partir de mercredi prochain, accompagnées par Dario Argento, Soupir dans un corridor lointain, le beau et mélancolique documentaire que lui a consacré l'ami Jean-Baptiste Toré. On signale également un numéro hors série de la revue La Septième Obsession, consacré au maître de l'angoisse transalpin. Et puis plus lointainement, sachez que la Cinémathèque française reprendra donc à partir du 25 septembre la rétrospective Kira Muratova. La Cinémathèque de Toulouse honorera Arthur Penn à la mi-octobre et on attend avec curiosité la rétrospective et l'exposition Louis de Funès montée par Alain Kruger au printemps à la Cinémathèque française. Ça commencera un 1er avril évidemment. Et puisque La Rochelle c'est de l'éducation à l'image aussi, sachez que l'association Les Enfants de Cinéma Fer de Lance depuis des années des dispositifs école et cinéma. Nombre de vos enfants, chers auditeurs, en ont sans doute bénéficié. Les Enfants de Cinéma donc proposent gratuitement de vous procurer les quelques 90 cahiers de notes sûrs qu'ils ont édités, ces indispensables petits cahiers verts signés par les plus grands noms de la critique et de l'histoire du cinéma sont d'indispensables éclairages sur quantité de chefs-d'œuvre du 7e art. Ça va de A comme La Lys de Jan Švankmajer à Z comme Zéro de Conduite de Jean Vigo. Il ne vous en coûtera rien sauf 20 euros de frais de livraison. Faites vite parce que cette collection exceptionnelle va partir comme des petits pains. Pour savoir comment faire, vous vous rendez sur notre site franceculture.fr à la page Plan Large. Tout vous y sera expliqué. Vous écoutez France Culture, Plan Large est au Festival La Rochelle Cinéma. C'est l'heure de sonner les 12 coups de minuit, l'heure du loup et des landes embrumées.
Grazie al cielo, è lui!
Sì, è lui.
Ma come si fa a sapere se i 5 giorni sono trascorsi o no? Mezzanotte è appena suonata.
Dio ci aiuti.
Perché nessuno mi viene ad abbracciare? Sono ferito. Perché mi guardate senza parlare? Eh? Che cosa significa questo silenzio?
C'était d'abord un chef opérateur, un truquiste assez génial qui est passé à la mise en scène pour devenir l'une des grandes figures tutélaires de l'épouvante mondiale. C'était l'auteur de classiques du genre comme Le Corps et le Fouet ou La Baie Sanglante, des films dont l'influence est reconnue tout autant par Dario Argento, je le disais tout à l'heure, son fils spirituel, que aujourd'hui par un Nicolas Winding Refn ou encore Quentin Tarantino ou Mario Bava, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est mis triplement à l'honneur en ce début d'été, une rétrospective à la Cinémathèque française, la publication d'un essai Mario Bava, le magicien des couleurs, signé Gérald Duchossois et Romain Van de Stichel. Enfin, la ressortie en salle et en version restaurée de 3 de ses films, et pas des moindres, 6 femmes pour l'assassin, La ruée des vikings et Les 3 visages de la peur. Mario Bava, c'était une sorte de peintre, hein, un peintre polychrome de cauchemars aussi flottants qu'enténébrés, qui a inventé, c'est lui qui l'a inventé à l'écran, ce qu'on appelle le giallo, le thriller à l'italienne. Il va s'exprimer dans une palette de genres extrêmement multiples. Ça va aller du fantastique gothique à qui il va donner une coloration tout à fait transalpine. Hein. On se souvient du Masque du démon en 1960. Il va aller jusqu'à la science-fiction psychédélique, La planète des vampires 5 ans plus tard. Et puis aussi l'adaptation de Fumetti, de comics italiens, le très pulp et baroque Danger diabolique en 1968. Donc Mario Bava, c'est un sillon très singulier, mais en fait assez personnel dans ce bouillonnement du cinéma populaire italien de l'époque. Comment est-ce que vous expliquez un tel engouement, Mathieu Macheret ?
C'est vrai qu'il y a de quoi s'interroger sur l'étrange destin des films de Mario Bava, qui ont été d'abord assez largement ignorés par la critique dite sérieuse, hormis peut-être quelques sectes comme les ceux qui fréquentaient le cinéma midi-minuit à Paris, et qui connaissent aujourd'hui en effet un véritable engouement, au point que il y en a 3 qui ressortent en version restauré, mais comme s'il s'agissait de classiques vraiment reconnus. Alors, à vrai dire, Mario Bava, il est inséparable d'une certaine histoire du cinéma populaire italien, en effet, et plus particulièrement d'une décennie dorée des années 60, dont on ne cesse de redécouvrir à quel point cette décennie, ce cinéma populaire, ont été un incroyable laboratoire de formes qui fonctionnait autant comme une usine à recycler un peu les succès d'un Hollywood qui était déjà à bout de souffle, que comme un vivier d'invention et d'expérimentation esthétique. Et dans ce grand barnum de genre en pagaille, de formule emprunté, exploité jusqu'à plus soif, Bava, sans conteste, était l'un des très grands artisans, même un véritable artiste, on peut le dire, dont l'œuvre affiche une cohérence, une tenue vraiment impressionnante, en dépit de tous les accidents de production, des budgets parfois faméliques, des modes du moment, et on sait qu'elle passait vite, des castings hétéroclites qui lui étaient imposés, ou des projets même qui récupéraient parfois sur le tard, enfin bon, des tas de contraintes assez, qui étaient vraiment en pagaille, et de tous les réalisateurs qui ont pris le parti de l'imaginaire contre le courant néo-réaliste, qui avait une certaine doxa, ou les hautes sphères d'un cinéma d'auteur bien installé en Italie, Bava s'est montré le plus conséquent dans une forme de subjectivisme, celui d'un cinéma qui fonctionnait exclusivement comme une cosa mentale, où la réalité n'est jamais perçue qu'à travers l'infini miroitement de fantasmes interposés. Alors les 3 films du programme de ses ressorties, ils appartiennent tous à ces prolifiques années 60, et ils témoignent à la fois de la polyvalence de Bava, hein, comme de la persistance de son regard, un regard acéré et hypnotisant. Il y a la ruée des Vikings qui témoigne d'un art copiste, puisque le film surfe sur le succès des Vikings de Richard Fleischer, dont il est une sorte de voilà de copie. Il en reprend grosso modo la trame, celle de deux frères ennemis qui se retrouvent dans des camps opposés, mais pour la vider de toute visée réaliste et plonge plutôt dans une ronde de rituels érotiques tendance sadomasochiste, d'affrontements violents et de visions crépusculaires. Les trois visages de la peur, en 63, c'est un film à sketch, des sketchs qui vont crescendo. Alors, téléphone, coup de téléphone meurtrier reçu dans la nuit, solitude gothique d'une maison contaminée par les vampires, remords angoissés d'une infirmière qui a volé la bague d'une défunte, enfin, ce sont les histoires dans lesquelles nous promène Mario Bava, mais le véritable chef-d'œuvre de la livraison, c'est Six femmes pour l'assassin, 1964, alors le précurseur du giallo, ces polars qui ont à la fois des poussées horrifiques et irrationnelles. Alors le film tourne autour d'une série de meurtres dans une maison de haute couture, c'est son originalité. Il fonctionne comme un saisissant ballet de prédation et de perversité dans le monde chamarré et superficiel de la mode, où les figures humaines sont réduites à des silhouettes interchangeables ou assimilées aux formes génériques des mannequins de ces mannequins inanimés qui parsèment la maison de mode. Alors qu'il s'agisse de ce milieu de la mode, du cercle familial, comme dans un magnifique sketch des trois visages de la peur ou d'une toute autre collectivité humaine, le groupe dans les films de Mario Bava est voué tôt ou tard à s'autodétruire parce qu'il est corrompu en profondeur par ses pulsions inavouables et des hantises qui lui renvoient l'image d'une individualité creuse et complètement aliénée. C'est évidemment cet étrange horizon qu'on aperçoit dans nombre de ses films, une indifférence fondamentale entre des figures humaines qui se ressemblent de plus en plus et qui ressemblent finalement à des pantins. Au fond de l'individu, il n'y a aucune singularité, mais le néant. Et c'est autour de cette profonde angoisse que s'enroule la mise en scène incroyablement précise, colorée, sinueuse de Mario Bava. Mise en scène dont le rythme syncopé fait se succéder macérations atmosphériques et des moments de grande sidération. À travers l'usage toujours renouvelé des filtres colorés, des papillotements lumineux, des reflets incertains, des zooms saillants, parfois nauséeux aussi, l'image est comme agitée de l'intérieur, secouée organiquement, pour susciter la fascination, voire l'hypnose du spectateur. Ces personnages finissent toujours par se rendre compte, tôt ou tard, qui ne sont jamais que des copies, des objets, des ombres, ou peut-être même des fantasmes qui se promènent dans le rêve d'un autre. Horizon existentiel vertigineux, par quoi le cinéma de Mario Bava, avec les armes du cinéma de genre et le registre populaire qui était le sien, rencontre finalement la grande préoccupation du cinéma moderne. Comment le sujet, vidé de toutes ses constructions intérieures, nous entraîne sur les rivages de l'abstraction.
Six femmes pour l'assassin, les trois visages de la peur et la ruée des Vikings en copie restaurée sont en salle à partir de mercredi prochain. Et pour prolonger la peur et le plaisir, la rétrospective Mario Bava à la Cinémathèque française, c'est du 3 au 28 juillet. Et puis encore l'essai de Gérard Duchossois et Romain Van Destichel, Mario Bava, le magicien des couleurs, c'est édité par Lobster. Merci Mathieu Macheret, les spectateurs de La Rochelle auront le plaisir de vous croiser vous aussi ces jours-ci dans les salles où vous présenterez nombre des film de Victor Sjöström, sur qui vous avez écrit dans l'indispensable catalogue du festival. Plan large, c'est fini pour aujourd'hui. À la prise de son, Julien Hézard. Merci aux équipes de France Bleu La Rochelle pour leur chaleureux accueil. L'émission était préparée par Pascaline Bonnet et réalisée par Somani Na. La semaine prochaine, c'est l'été sur France Culture. Nous vous proposerons pendant 8 semaines de réécouter quelques plans larges consacrés à des francs-tireurs du cinéma, à commencer samedi prochain par une franc-tireuse, la très regrettée Agnès Varda, la documenteuse. Charlotte Garçon nous parlera également en fin d'émission de la flibustière Nelly Kaplan. Bel été sur France Culture. D'ici là, vos programmes continuent dans un instant. Une vie, une œuvre, présentée par Christine Bernard.